Interview.
2 jours.
Auditeurs, auditrices de RDWA, bonjour. Eh bien, pour l'interview du jour, je me trouve avec Valentin Lobrier, formateur au CFPPA de Die. Bonjour, Valentin.
Bonjour.
Alors, un peu plus précisément, de quoi es-tu chargé dans cette école de... C'est une école.
Oui, on peut dire ça comme ça. Moi, je fais, j'accompagne les stagiaires donc dans la formation la plus longue qu'on a, le BPROA, qui dure à peu près 10 mois. J'accompagne les stagiaires pour élaborer leur projet. Donc, je les accompagne pour essayer de mettre en lien différents modules qu'ils voient en commercialisation, en technique de production et en comptabilité. Donc ça, c'est différentes façons de décortiquer un projet agricole. Et moi, dans ma matière, on essaye de voir comment est-ce qu'on met ces trois ensemble et on essaye d'y donner un maximum de sens, de cohésion et faire en sorte que ça s'articule correctement. Après, je m'occupe de formations un peu plus courtes, particulièrement en agroforesterie et en biodynamie.
Comment es-tu arrivé au CFPPA en quelques mots ?
Je suis arrivé un peu par hasard. C'est ma femme qui a trouvé du travail dans la Drôme et c'est très bien tombé avec la sortie d'une personne du staff du CFPPA qui a commencé un projet dans une pépinière à Saillant. Et du coup, il y avait un poste vacant. Moi, je pensais retourner travailler en agricole. Et puis, le poste de formateur m'a intéressé. Donc, je me suis dit, let's go pour cette aventure.
Alors, toi, tu viens aussi du monde agricole. Tu as été agriculteur.
Alors, j'ai été, le terme exact, c'est chef d'exploitation, même si ce n'est pas un terme très élégant. C'est-à-dire que j'étais chargé de production dans une entreprise qui faisait des plantes aromatiques et médicinales. Je fais la différence parce que un responsable d'exploitation gère tout de A à Z, hein, c'est-à-dire la production, mais aussi tout ce qui est aspect vente et juridique. Dès que moi j'étais dans une entreprise agricole qui était relativement volumineuse, et moi ce qu'on me demandait de faire, c'était de produire. On avait des attentes envers moi de rendement en plantes aromatiques et médicinales, mais c'est pas moi qui gérais les ventes ou la stratégie de vente.
Alors, au CFPPA de Die, comment pourrais-tu le présenter ? Combien il y a d'élèves
Alors,
par année ?
Des stagiaires à l'année, c'est une bonne question. Alors, ça oscille évidemment en fonction des financements qu'on a. Parce qu'on est, tributaire de financement, soit Pôle emploi, soit région, ou soit après des cas particuliers. En général, donc notre gros groupe de BPROA qui reste le plus longtemps, on a une trentaine de stagiaires. Et puis après, au printemps, on va avoir une à deux classes d'ouvriers maraîchers ou d'ouvriers PAM, qui là vont être autour, en général, entre 10 et 15. Ensuite, on a une formation pour les mushers, conducteurs et conductrices de chiens de traîneau, qui va durer aussi plusieurs mois, mais évidemment plus à travers l'hiver. Et à travers l'hiver, là, c'est assez variant, là, les mushers, cette année, par exemple, ils sont une dizaine. Et pareil, en hiver, on a une formation spécifique pour la taille de vigne, où là, on a aussi plutôt des petits groupes autour d'une douzaine de stagiaires.
Et ils viennent d'où, tous ces stagiaires ?
Les stagiaires qui nous viennent, c'est extrêmement diversifié parce que c'est dans beaucoup de cas de la reconversion professionnelle. Alors, y a un peu des profils, hein, qu'on retrouve, par exemple, les personnes qui font de la taille en vigne. Donc, c'est un geste très précis qui se fait à un moment de l'année aussi assez précis. Et là, souvent, les profils qu'on a, c'est beaucoup de profils qui ont déjà de l'expérience en agricole et qui cherchent une activité pendant l'hiver, en fait, pour boucler l'année. En BPROA, honnêtement, je pourrais très difficilement résumer le public qu'on a, c'est très varié. On peut avoir l'ingénieur en bâtiment public en reconversion, comme un fils d'agriculteur, comme une experte comptable. Enfin, on a vraiment de tout. Mes collègues me disent que d'année en année, on a quand même vu un changement. Moi, j'ai peu d'ancienneté, hein, j'ai 2 ans d'ancienneté au CFPPA, mais certains de mes collègues, Dominique Lecoinet, est là depuis plus longtemps, depuis une vingtaine d'années. Elle nous dit qu'on a vu quand même un switch depuis des stagiaires qui étaient très issus du milieu agricole à de plus en plus des stagiaires qui avaient fait des études dans des milieux complètement différents, qu'on pourrait dire un peu néo-ruraux, et qui s'intéressent à la vie à la campagne, à l'écologie, et du coup qui se réorientent vers une carrière, si on peut dire, agricole.
Quel est l'historique du CFPPA? Je sais qu'avant, ça s'appelait le foyer du progrès.
Alors, moi, je ne suis pas la personne la mieux placée pour vous parler de l'historique, hein. Je pense que Renaud ou Dominique, au CFPPA, sera mieux placé pour retracer cette historique-là. Moi, ce que j'observe en termes d'historique par rapport à la formation, c'est que les CFPPA ont un peu cette image d'être peu novateur et d'enseigner une agronomie, on va dire, un peu restreinte, un peu normative, et bon, qui est pas forcément adaptée aux personnes qu'on a devant nous de nos jours. Enfin, les publics qui sont orientés, enfin, intéressés par la réorientation vers l'agronomie. C'est pas exactement le cas du CFPPA-D, parce que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on s'oriente vers le bio et qu'on lance pas mal de techniques, enfin qu'on lance des formations sur des techniques alternatives, type de la biodynamie, de la permaculture, de l'agroforesterie, du soin alternatif aux animaux. On a aussi de la formation sur du tourisme écolo à la ferme. Bon, et ça fait vraiment plusieurs années que le CFPPA-D s'inscrit dans ça et se renouvelle. C'est pas le cas de tous les CFPPA.
Quels sont les grands domaines de formation du CFPPA?
Alors, les grands domaines de formation, bah, forcément, elles dépendent de ce qu'on peut observer sur le territoire. Alors, ça va dépendre, hein, d'année en année, ça a évolué. Nos grands, je dirais le gros de notre travail, le gros de nos stagiaires sont intéressés par le maraîchage et le maraîchage bio. Et la plupart du temps, on parle de maraîchage bio diversifié sur petite surface. Donc, c'est des entreprises agricoles qui vont être sur 2-3 hectares, je caricature un peu, hein, avec une diversité légumière autour de 30-40 variétés. Après, on a chaque année pas mal de stagiaires qui sont en production animale. Donc là, on peut avoir de l'allaitant, enfin, on peut avoir. Bon, dans nos régions à nous, on a peu de vaches, mais ça nous arrive quand même d'avoir un peu de vaches. On va avoir surtout des ovins et puis un petit peu des caprins. Parfois même des poules, mais c'est plus rare. Et puis après, c'est plus ponctuel. On va avoir des projets qu'on va accompagner qui se collent un peu moins au territoire, mais ça n'empêche pas qu'on puisse les accompagner. Et puis après, pour des formations plus précises, on va les diriger vers d'autres centres, type de l'arboriculture, type de la production en PAM, en plantes aromatiques et médicinales, enfin plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et puis après, des fois, on a comment dire, des stagiaires avec des sujets un peu insolites. En ce moment, par exemple, il y a une recrudescence sur le CBD qui fait beaucoup parler de lui. Donc ça, c'est des choses qui est un challenge toujours un peu pour nous dans les centres, de quand on a des stagiaires avec des projets concrets qui sortent un peu des sentiers battus.
Du coup, le CFPPA, c'est un peu une formation à la carte.
Oui, il y a de ça, et ça, c'est une volonté aussi de nos financeurs, hein, parce que nous, on répond à des appels d'offres de formation, et puis ça veut dire en gros qu'on démontre qu'on a la capacité de donner cette formation, et à travers le CFPPA, comment dire, la formation du stagiaire est financée. Et donc, nos financeurs nous demandent d'individualiser au maximum la formation. Donc, dans la façon dont est construite le BPREA, on doit démontrer que chaque stagiaire est pris en compte de façon individuelle et qu'on ne fait pas un moule où ça déroule. Alors, enfin, évidemment, il y a des temps en classe où ils sont tous ensemble et puis là, on a plus une modularisation groupe. Et après, on va avoir des parcours vraiment individuels au niveau de formation plus précise, sur quelques jours, voire après sur l'accompagnement aussi de leur projet. Parce que le CFPPA a vocation de les accompagner pour monter un projet. Et ça, bah, évidemment, on va travailler directement sur leur projet personnel.
Quels sont les modules de formation?
Alors, les gros piliers de formation, donc on a la commercialisation. Donc ça, c'est vraiment apprendre à identifier des débouchés, apprendre à vendre, apprendre à établir un prix. On a de l'approche globale d'entreprise agricole, l'AGEA. Donc là, on va travailler aussi sur les projets et on va essayer de faire un mix de l'ensemble de ce que comprend un projet. J'aurais dû le dire à la fin, c'est plus logique. On
Tu
a,
l'auras, excuse-moi.
ouais. Alors, commercialisation. Dans la commercialisation, on va leur apprendre à identifier des débouchés, identifier des demandes, établir des prix. Après, en technique de production, c'est tout ce qui revient du geste technique de production. C'est un peu redondant, mais comment est-ce qu'on élève des animaux, comment est-ce qu'on fait pousser des légumes, comment est-ce qu'on gère sa fertilité, comment est-ce qu'on gère la santé des animaux, la santé du végétal. Donc ça, c'est dans la technique de production. Après, on a un gros pilier sur la compta. Donc là, c'est le côté un peu paperasse de l'entreprise agricole, hein, qui fait toujours un peu froid dans le dos, avec choisir des statuts et puis conduire sa comptabilité, quoi, être autonome, comprendre comment la comptabilité d'une entreprise agricole fonctionne. Et puis une matière qui chapeaute un peu le tout, qui s'appelle la GEA, donc l'approche globale de l'entreprise agricole, où on va leur faire monter leur dossier à travers cette AGEA et on va colmater toutes les matières dans ce projet, donc la commercialisation, les techniques de production et la comptabilité.
Donc, tous ces enseignements se font en classe et sur le terrain.
Oui, on a. Alors, ça c'est souvent un sujet, j'allais dire, un peu de tension avec les stagiaires. C'est qu'on parle d'un métier qui est quand même éminemment manuel, mais la formation qu'on propose, ça reste une formation relativement théorique. C'est-à-dire que le gros, sur une année, je ne me rappelle pas exactement, mais ils doivent avoir autour d'une dizaine de semaines de stage sur 10 mois de formation. Donc le gros est quand même passé en classe. Alors ça n'empêche pas qu'en classe, très régulièrement, on va faire des visites. Parce qu'on n'a pas de terrain d'application déjà sur le centre, donc on va très régulièrement voir des agriculteurs et agricultrices. Pour faire des chantiers, pour avoir des visites de ferme, pour faire des analyses globales. Mais très souvent en sortie de BPREA, on a un retour des stagiaires qui dit, ben moi j'aurais aimé être un peu plus dehors. Et ça se comprend et souvent on leur répond, ben c'est pour ça aussi qu'il y a tout le déroulé ensuite avant l'installation du PPP, de l'aide à l'installation, pour gagner encore plus en pratique, je veux dire. Et le cas très récurrent, nous, qu'on voit de parcours vers l'installation, c'est un BPREA qui permet d'avoir un bagage solide en termes de théorique, de gestion, management d'une entreprise agricole, et puis après qui complète avec du salariat. Pendant une, deux, trois saisons, et puis après, en général, ils ont les épaules pour se dire, let's go, je m'installe.
Et il y a aussi cette formation qui est celle d'ouvrier agricole qui permet d'expérimenter techniquement déjà le travail, proprement dit.
La formation qu'on a d'ouvrier agricole, donc elle dure sur 3 mois, et c'est vraiment un premier pas vers le monde agricole. Donc là, évidemment, on rentre un peu dans la théorie, parce que le but, c'est pas de faire des gestes sans réflexion. Donc on a quand même toute une entrée en matière de dire ben, comment est-ce qu'on raisonne un peu de la fertilité, comment est-ce qu'on raisonne l'emplacement de nos cultures, comment ça fonctionne une plante, quoi, de façon générale. Et puis, mais après, on guide quand même le gros de la formation pour qu'ils voient un maximum d'entreprises et qu'on voit un maximum de tâches agricoles. Donc on la positionne en tout début de printemps et jusqu'à début d'été pour qu'on voit en gros ce moment crucial dans l'année de maraîchage ou de plantes aromatiques et médicinales, parce que c'est les deux formations ouvrières qu'on a, où il y a toute la mise en culture et le début des récoltes. Et c'est là où il y a beaucoup qui se joue en termes de préparation de sol, de préparation des plants, de l'irrigation, la fertilité. C'est un gros bout technique de la saison.
Et donc, au cours de cette préparation de BPREA, vous accompagnez bien sûr chacun, chacune, pour que à la sortie, il ait un projet viable et un projet réel d'installation.
C'est assez évident la viabilité d'un projet quand on croise ce qui est les techniques de production, la comptabilité, la commercialisation. Particulièrement à travers la GEA, où là on a un peu le projet qui est désossé, et on va pouvoir dire ben, est-ce que tous ces membres s'articulent correctement, sont bien proportionnés et ont du sens. Et c'est vraiment le travail aussi émotionnel que font les stagiaires tout au long de l'année, c'est de passer d'un rêve, un peu de souvent d'une utopie quand on. Souvent pour des stagiaires qui sont issus, enfin qui ne sont pas issus justement du milieu agricole, une idée, une volonté, et puis de petit à petit rentrer dans les bottes d'une ou d'un responsable d'entreprise agricole, et donc avec un projet viable et tout ce que ça entend en termes d'investissement, de charge de travail, d'enracinement aussi quelque part.
Au-delà des enseignements techniques et théoriques, qu'est-ce que vous transmettez aussi d'essentiel à vos élèves ?
Ça, je pense que ça va dépendre de... Enfin, je ne peux pas parler pour toute l'équipe. C'est drôle parce que je ne crois pas qu'on soit déjà réunis autour d'une table en tant qu'équipe pour parler de nos valeurs de CFPPA. Mais je pense que juste du fait de la camaraderie qu'il y a au sein du CFPPA, et puis entre formatrices, formateurs et puis encore d'autres, on voit qu'on a quand même une volonté commune de proposer des systèmes agricoles résilients, durables. Alors après, c'est des mots qui sont un peu fourre-tout. Moi personnellement, je pense que ce qui me tient à cœur, c'est de maintenir vraiment l'envie qu'ils ont au départ de la formation et d'essayer de le garder jusqu'à la fin, et de sortir de la formation avec la niaque de faire un changement, de s'installer, et puis de créer une activité professionnelle qui puisse vraiment les enrichir. Parce que c'est assez souvent au long de la formation, quand on commence à brasser des chiffres, quand on commence à rencontrer des personnes qui ont un rapport à l'agriculture qui s'est peut-être un peu qui a baissé en intensité parce qu'ils se sont pris des gadins, parce qu'ils ont eu des ratés, parce que c'est un travail dur. Du coup, ça nous arrive des fois de voir un peu des pertes d'enthousiasme au fur et à mesure du projet, parce que la personne aussi se demande est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, quand on commence à vraiment découvrir le métier. Mon travail, j'estime pas qu'il faut à tout prix qu'ils se disent oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, mais c'est qu'ils se rendent compte que oui, c'est difficile, mais que oui, il y a aussi des alternatives, des façons de travailler, des façons de s'organiser qui peuvent rendre le travail acceptable, et que ce soit une réussite tant sur le point social que sur le point écologique ou commercial.
Oui, on entend souvent de la part des agriculteurs et agricultrices que la relation sociale est bien sûr au cœur de ce travail et que c'est bien ça qui vient souvent soutenir au quotidien.
Oui, c'est hyper important et sur différents niveaux. Et là, la place du BPROA, je pense, est hyper intéressante. Déjà, au sein d'une promo, c'est pas souvent dans notre vie d'adulte qu'on va se retrouver dans un groupe avec autant de promiscuité à passer des étapes qui sont ou qui demandent de la remise en question, qui font parler de soi et tout ça. Et donc, cet environnement-là crée une cohésion de groupe qui est déjà pour eux un début d'entraide, de solidarité paysanne. Et ça, chaque promo, enfin, nous, on le voit, c'est très souvent quand même qu'ils se suivent, qui gardent contact, qui se visitent en ferme, enfin, qu'il y a des liens qui se font, qui sont vraiment forts. Après, c'est vrai que tout au long de la formation, dans les témoignages qu'on voit autour de nous, bah, souvent quand on dit toi, cette machine, elle vient d'où? Ou ça, tu l'as appris comment? Ou ça, qui est-ce que qui te l'a fait? Eh ben, on a énormément de retours, de témoignages, d'entraide, de voisinage, qui sont évidemment cruciaux. Après, un autre point aussi qui me tient vraiment à cœur dans la formation du BPROA, c'est d'essayer de. C'est un peu l'envers des bonnes relations de l'entraide, c'est les tensions au niveau agricole. On a quand même un métier où on se pointe pas mal du doigt selon les pratiques que certains ont ou n'ont pas. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre en avant devant les stagiaires, enfin, je crois pas en l'agriculteur ou l'agricultrice qui se lève le matin et qui se dit, tiens, je vais aller pourrir mon sol et la biodiversité. On a ce moment de formation, là, un an, pour comprendre aussi qu'il y a des systèmes duquel on essaye de se détacher, qu'on essaye de faire évoluer. Mais ceux qui sont encore dans des systèmes qui demandent changement, ben c'est pas une volonté forcément de cœur, c'est tout un système agroalimentaire qui nous a poussés vers une certaine forme de production. Et du coup, dans la relation sociale, le fait d'en parler pas mal en formation, ben j'espère que les gens, les stagiaires en BPROA sortent du BPROA avec de l'ouverture et de l'envie d'entraîner l'ensemble du monde agricole vers du meilleur, plutôt que de dire ben moi j'ai ce label, je suis meilleur, et puis toi tu as un autre label, c'est vraiment mauvais. On essaye d'éliminer ça et puis de se rendre compte qu'on a tous des contraintes et d'essayer d'évoluer, enfin au moins de se respecter les uns les autres et de faire évoluer le monde agricole
Ensemble.
ensemble.
Quelles sont les pratiques innovantes que petit à petit vous avez pu observer, découvrir, mettre au point peut-être et transmettre?
Alors, dans le BPROA, on a plusieurs alternatives, hein, façons de produire innovantes qui ont été mises en place ces dernières années. Celles qui sont assez phares et qui font venir des stagiaires de toute la France à peu près, c'est l'agroforesterie, la biodynamie et la permaculture. Et puis après, on a aussi une formation pour les soins aux animaux, ouais, qui aussi affiche toujours complet par rapport aux alternatives qu'on propose par rapport au traitement classique, entre guillemets. C'est des méthodes alternatives qui ont pas enfin sur lesquelles on n'a pas forcément énormément de recul, et le CFPPA s'est vraiment positionné en pionnier, en fait, pour essayer de proposer dès le début ces façons de penser, en fait, hein, plus que juste des méthodes, c'est des façons de penser un système agricole aux stagiaires. Et du coup, on a dû gagner en expertise pour pouvoir accompagner les stagiaires. Et donc ça a poussé en fait le CFPPA à se joindre à des projets de recherche, à se joindre à des projets ouais, vraiment innovants, des fois à des échelles nationales ou européennes, pour gagner en expertise et pouvoir accompagner des stagiaires vers des projets viables et pas rester juste dans le théorique d'un projet innovant. Ouais.
Du coup, c'est un peu aussi finalement ce que je comprenais, ce que j'allais dire. Être agriculteur, agricultrice, c'est être aussi dans la recherche, l'expérimentation. Est-ce que c'est aussi ça que vous transmettez?
Oui, ça c'est, enfin le, y a pas deux saisons qui se suivent et qui se ressemblent. Les agriculteurs et agricultrices ont une force d'adaptabilité qui est incroyable. Déjà, juste en termes d'environnement commercial, c'est un monde qui bouge énormément en termes de normes aussi. Le nombre de normes auxquelles les agriculteurs et agricultrices doivent répondre est extraordinaire et en constant changement, que ce soit des directives à travers la PAC européenne, que ce soit des régionales par rapport à, je sais pas, des normes nitrates, des normes d'accès à l'eau. Il y a toute une cohorte réglementaire autour de l'entreprise agricole qui est en constante évolution. À ça se rajoute donc un environnement éminemment changeant. C'est un témoignage qu'on voit qui est très criant, en tout cas nous en Drôme, des saisons qui commence à vraiment changer drastiquement, quoi, un dérèglement climatique. Alors déjà qu'avec des saisons relativement normales, si ça a déjà existé, elles ne se ressemblent pas, donc il y a une adaptabilité qui est demandée là, qui est réelle. Mais il semblerait que cette adaptabilité à l'environnement est de nos jours exacerbée. Quoi d'autre en termes d'adaptabilité?
Et du
Environnement,
coup,
non.
ça oblige donc celles et ceux qui travaillent dans le domaine agricole d'être en permanence à trouver des solutions, à s'adapter, à chercher et à
Ouais.
combiner pour pouvoir vivre
Ouais.
au mieux.
Ah oui, c'est extraordinaire. Enfin, on fait un exercice, ça nous arrive pour aller chercher, pour décrire la compétence des entrepreneurs agricoles, un exercice d'explicitation. Donc, c'est-à-dire qu'on leur pose des questions assez idiotes pour essayer de comprendre leur façon de réfléchir et leur façon d'agir. C'est extraordinaire de voir le nombre d'indicateurs, le nombre de compétences qu'ils saisissent quotidiennement. Une agricultrice au quotidien va utiliser des notions d'outillage par rapport à son tracteur, des notions d'indication de qualité de sol, si le sol est ressuyé, est-ce qu'elle peut passer son outil, des notions d'observation assez rapide quand elle parle dans ses cultures, qui sur la qualité sanitaire, la qualité de pousse, des potentiels fins de nutriments. Tout ça demande une capacité d'analyse et un nombre de compétences absolument extraordinaire. En plus de ça, on vous demande d'être bon vendeur ou bonne vendeuse. En vrai, c'est un métier extrêmement prenant. Et d'ailleurs, ce côté prenant, c'est quelque chose qu'on essaye de souligner énormément avec nos stagiaires, c'est que ce soit prenant, stimulant, ok, pourquoi pas, mais que ça ne devienne pas bouffant d'un point de vue de la charge émotionnelle.
D'où l'intérêt d'être en réseau.
Exactement, ouais. Ouais, l'idée du réseau, alors bon, ça fait un bout de temps qu'on a des réseaux paysans qui existent, hein, pour essayer de créer un maximum de liens. Le réseau, là où on voit de plus en plus de cas vraiment intéressants de réseaux, c'est des réseaux très resserrés dans des fermes en polyculture. Donc, c'est-à-dire plusieurs associés qui produisent ensemble. Donc là, on a vraiment une séparation des tâches de travail qui sont très intéressantes. Et c'est en tout cas, dans les exemples qu'on voit en Drôme, des exemples assez évidents de réduction de charge de travail quand on est plusieurs et qu'on est bien organisé. C'est un peu des notions de à trois qui travaillent ensemble, on fait plus de travail que trois personnes qui travailleraient individuellement. Donc c'est vraiment des trajectoires qu'on voit pour l'avenir en termes de résilience qui sont hyper intéressantes. Résilience en termes de production, avec un marché qui est toujours changeant. Donc si on se base sur plusieurs productions, eh ben, on a plus de résilience d'un point de vue de la commercialisation. Et puis après, plus de résilience par rapport aux différentes charges de travail qui peuvent être partagées. C'est aussi une responsabilité d'entreprise agricole qui est partagée. Donc c'est quand même un poids plus allégé. C'est typiquement nous des exemples en polyculture où on a des entrepreneurs et entrepreneuses qui prennent des week-ends, qui partent en vacances, même des fois dans le pic de la saison. Parce qu'ils peuvent dire aux associés, ben, là j'en ai besoin, je pars 2 jours, je pars 5 jours, je prends mes gosses et on va faire un tour. Voilà, donc ça, c'est des façons de faire qui semble intéressante en tout cas, ouais, qui semble d'avenir ouais, par rapport à la charge.
Ce que vous dites, Valentin Lebrier, nous donne à penser que, ben oui, c'est possible de vivre bien de son travail d'agriculteur, d'agricultrice.
Oui, on a des exemples autour de nous, hein, et ça, je parle juste à travers des exemples où on a des personnes qui, alors bon, on n'a pas fait de tests pour savoir à quel point ils étaient heureux, mais en tout cas, ils ont des entreprises agricoles stables qui durent depuis des années avec des revenus satisfaisants et dont le temps de travail est acceptable, en tout cas pour dans leur référentiel. Donc oui, c'est évident que c'est possible. Après, la mise en place est pas si facile. Ouais, c'est un métier qui demande quand même, je pense, beaucoup de talents différents et beaucoup de résilience aussi. La résilience, elle est testée en plus dès le départ, quoi. C'est un peu comme quand on prendrait le violon en main, quoi. Il y a beaucoup de gadins au début. Je pense à l'accès à la terre, hein, qui est un réel souci, qui est un réel challenge pour beaucoup de nos stagiaires. Et puis après, c'est les premières années où, ben, quand on n'est pas rodé forcément sur nos itinéraires techniques, sur nos façons de stocker nos récoltes, qu'on a le chance de plus se prendre des échecs. Et du coup, ben, c'est des choses qui s'accumulent, d'avoir des cultures qui peuvent rater, un roulement financier qui peut un peu s'effiler. Et physiquement aussi, ben, on apprend à être de plus en plus efficace, mais il y a quand même les premières années, la première saison, un gros coup physique, quoi, hein, où il faut apprendre à gérer son corps sur des tâches répétitives, en plein cagnard. Enfin, c'est un vrai apprentissage. Et tout ça arrive en même temps au tout début. Et donc pour passer à travers ça, ben, ça demande quand même une sacrée force d'esprit et une sacrée résilience. Et des fois aussi un sacré entêtement. Hein. On voit, j'irais jusqu'à l'entêtement pour des personnes qui perdent un peu des plumes de ces premières années-là.
Est-ce qu'il y aurait des choses, mais même en dehors d'un centre de formation comme le CFPPA, qu'est-ce qui pourrait être modifié, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que plus de jeunes agriculteurs et agricultrices puissent durer et réussir?
Est-ce qu'on parle d'aide? Tu vois, là, avec la prochaine PAC, on devrait avoir des aides à l'hectare pour les maraîchers qui sont bien plus élevés. On passe de 50 à, je crois, 1 500, quelque chose comme ça. Donc ça, si déjà tu as moins de pression financière, évidemment que l'entrée en matière est moins, enfin, écorche moins. T'as des notions de est-ce qu'on pourrait créer plus de réseaux quoi entre des personnes installées et des personnes qui s'installent ou entre personnes en cours d'installation ça pourrait être intéressant mais le problème de bah, des réseaux c'est qu'il faut avoir le temps pour y participer pour les animer pour et souvent les premières saisons enfin les personnes ont la tête dans le guidon. Enfin, c'est très dur de prendre du temps en dehors de l'entreprise pour se dire, il faut que je sociabilise, il faut que je voie d'autres personnes pour qu'ils me parlent de leurs pratiques. On a des exemples hein, de ce qu'on appelle des GI2E, là, des groupements d'intérêts économiques et environnementaux, où des personnes se rejoignent et vont faire des voyages, vont s'échanger des techniques. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a une montée en compétences et puis il y a aussi un partage des problèmes quoi, qui sont vécus au quotidien. Si dès la sortie du BPROA, on pouvait orienter les personnes qui sont prêtes à s'installer vers des GI2E, ça pourrait être aussi des façons intéressantes ouais, de limiter les casses. De façon générale, moi, ce que je recommande, et je leur précise que c'est de la recommandation, hein, c'est d'un point de vue un peu personnel, c'est quand ils ont vu des systèmes qui marchaient bien, des systèmes dans lesquels ils se retrouvaient et qu'ils estimaient que la personne qui pilotait le système avait une vie convenable, de commencer par copier le système. Il n'y a pas de honte à recopier, même si dans le système il y a des trucs qui ne plaisent pas ou quoi, d'essayer de faire pareil, de maîtriser quelque chose qu'on sait qui marche, et puis à partir de là, de réinventer le monde, quoi. Mais de premièrement s'assurer, en fait, le fait de répéter un système et puis de savoir qu'il marche, pour moi, ça valide une première chose, c'est un peu cette idée de la main verte. Qu'on n'est pas tous sûrs d'avoir et de se dire, ben oui, en fait, je sais faire pousser des légumes et maintenant je vais apprendre à les faire pousser de la façon qui me convient le mieux et c'est souvent de la façon plus respectueuse de l'environnement aux alentours de la ferme.
Je vais essayer de reposer ma question parce qu'elle n'était peut-être pas très bien posée, ma question tout à l'heure. Peut-être qu'il faudrait que je demande de votre point de vue, Laventin Lobrier,
Ouais.
qu'est-ce qu'on pourrait encore conseiller à... Qu'est-ce que vous pourriez, Valentin Lobrier, qu'est-ce que vous pourriez conseiller encore à des jeunes qui sont tout juste sortis là, du BPREA et qui se lancent, ça y est, ils sont partis?
Alors les personnes qui se lancent, moi ce que je leur, enfin ce que j'espère pour eux, parce qu'en général en fin de formation, moi, je leur ai dit tout ce que j'avais à leur dire, mais ce que j'espère pour eux, c'est qu'ils développent vraiment une relation personnelle et amoureuse avec le vivant. Pour moi, de ma petite expérience de quelques années de production en plantes aromatiques et médicinales, ce qui m'a vraiment poussé à continuer et à vraiment apprécier mon travail, c'est d'apprendre hein, à tomber amoureux du végétal. D'apprendre à l'observer dans toute sa complexité, dans toute sa beauté. Et quand on a la tête dans le guidon, quand on est en train de désherber depuis 3 heures et de se dire que ça a du sens et que c'est beau ce qu'on fait, bah, ça prend en fait un vrai travail. C'est sûr qu'en fin de journée, avec un petit verre et qu'on regarde un champ, on se dit, c'est assez évident de savoir que c'est beau, mais dans la tâche au quotidien, c'est bien de se le rappeler et d'apprendre à l'apprécier. D'apprendre à observer, je sais pas, par exemple, tous les types d'herbes qu'on a sur nos parcelles, de sortir un peu de cette grille de mauvaises herbes ou pas mauvaises herbes, d'apprendre juste à les connaître, à connaître leur nom, leur famille, leur façon de pousser, ce qu'on va retrouver en biodynamie qu'on appelle le geste d'une plante, ce qu'elle nous exprime. Les bébêtes qu'on voit. Est-ce que les bébêtes peuvent ne plus être des bébêtes, mais devenir des syrphes, des chrysophes, des staphylins, et dès qu'on commence à avoir une relation vraiment personnelle avec son environnement, déjà on voit bien mieux l'impact qu'on a dessus, et puis aussi on se sent plus attiré et plus en lien en fait direct. Et ça, c'est très personnel. Enfin, pour moi, c'était assez évident que avoir ce lien avec mon environnement était important parce que ça me permettait vraiment d'apprécier au quotidien mon travail dans les champs.
Donc vous parlez d'amour et de poésie.
Il y en a beaucoup pour moi. Ouais, il y en a beaucoup. Alors, je peux pas du tout résumer. Enfin, il y a mille façons de voir notre environnement. Hein, mais j'ai retrouvé quand même régulièrement chez des paysans et paysannes une réelle connexion un peu poétique, enfin en tout cas sentimentale, avec leur environnement. Ouais.
Et c'est ça qu'on appelle la passion.
C'est une bonne question. Pour moi, mais ça c'est beaucoup plus dans le mot passion, il y a quelque chose qui déchire un peu. J'espère que la relation qu'on peut avoir avec notre terre peut être juste dans le plaisir et pas forcément le côté déchirant de la passion. Je pense qu'on peut faire justement par le biais d'une approche qui est quand même essentielle, qui est rationnelle, agronomique, et puis une approche aussi de lecture sensible qui nous permet de vraiment d'apprécier et de prendre beaucoup de plaisir à travailler à l'extérieur. Le mot passion, moi j'y fais un peu gaffe parce que c'est y a un côté très explosif, alors que la façon dont les saisons s'enchaînent et la progression est relativement lente, je dirais que c'est pas aussi explosif que de la passion, mais qu'il y a vraiment un amour ancré, profond et continu qu'on peut apprendre à développer, quoi, qu'on peut approfondir, quoi, travailler tout au long d'une carrière.
Et c'est bien ça que OCFPPA, eh bien, de dit, vous enseignez, vous transmettez.
Alors j'aimerais bien dire que c'est ça, mais on, malheureusement, j'interviens sur des questions beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus, comment dire, de leur apprendre à faire des calculs de fertilisation, d'irrigation, de faire des analyses de sol. Mais j'espère quand même que dans la façon dont on échange, la façon dont on parle du vivant et la façon dont on se retrouve aussi à l'extérieur, qui a un échange que j'arrive à transmettre, que ça me plaît d'être là et que ça me plaît de travailler avec du vivant et de l'observer. Mais après, je pense que le travail est à chacun de l'initier.
Je ne peux pas m'empêcher de faire référence à l'interview que nous avons faite d'Anaïs Combes qui justement vient d'obtenir un BPREA. Vous le retrouverez sur le site de la radio. Alors,
Yes.
Valentin Lobrier, pour terminer ce moment d'interview, est-ce que tu voudrais bien partager une musique avec les auditeurs auditrices de RDIWA, une musique qui te stimule, qui te fait du bien à toi, qui est en charge d'accompagner celles et ceux qui veulent faire de l'agriculture?
C'est pas facile comme question, il y en a plein. Alors, une musique qui me vient d'un héritage asiatique où j'étais pendant quelques années, c'est les chants gutturaux mongols que j'ai toujours adoré et que je pratique bien piètrement. Donc, pour ceux qui s'appelaient, je vous conseille le groupe Hangai, donc Hangai. Excellent groupe de rock guttural mongol. C'est une drôle de découverte, ouais. Et puis quand on ferme les yeux, on est sur un cheval dans les steppes, c'est assez chouette.
Bon, ben, merci Valentin.
Avec plaisir.
À une prochaine.
À une prochaine.
Salut Vincent.
Avec le cercle de 10.
Tu as vécu en Mongolie?
Şirin.